premier volet d'une nouvelle semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire sur la longue durée de la Syrie. Demain, en effet, France Culture se souvient que ce pays doit célébrer en ce 17 avril le 66e anniversaire de son indépendance et a donc décidé de traiter de l'actualité de ce pays dans de nombreuses émissions comme Les Matins, La Fabrique, donc La Grande Table, Le Grain à Moudre ou encore Le Rendez-vous. Pour notre part, nous allons toute la semaine raconter la Syrie et son histoire en quatre temps. Exceptionnellement, donc pas de documentaire du mardi demain, mais quatre émissions de débats en direct demain sur la Syrie des Omeyyades avec Gabriel Martinez-Gros et Emmanuel Tixier du Ménil, mercredi sur la Syrie des Croisades avec Anne-Marie Hédé et Abès Zouache, jeudi sur la Syrie du mandat français au début du XXe siècle dans les années 20 avec Gérard Houri, Leïla Dakhli et Nadine Miouchi, aujourd'hui bien la Syrie antique avec Maurice Sartre. Il est professeur émérite d'histoire ancienne à l'université François Rabelais de Tours, il est membre de l'Institut universitaire de France, il sera en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Tours que nous remercions de l'accueillir. Maurice Sartre est en effet un des meilleurs spécialistes français justement de cette région du monde qu'il connaît depuis plusieurs décennies maintenant. Il est l'auteur entre autres de la Syrie antique en découverte Gallimard, de Palmyre avec sa femme Annie Sartre, la cité des caravanes toujours en découverte Gallimard, d'Alexandre à Zénobie chez Fayard, c'était en 2001, de l'Orient romain au seuil, encore de succulente histoire grecque au seuil. Avec lui, nous allons tenter de comprendre comment s'est formé à l'époque antique ce territoire qu'on nomme aujourd'hui Syrie. Mais auparavant, comme tous les lundis, vous le savez, le feuilleton aux archives nationales préparé par Sébrine Yatar.
Los archivos pertenecen a todos los ciudadanos. Los papeles que conservamos aquí, los papeles de los reyes de Francia, los papeles de los presidentes de la República, los papeles de las administraciones pertenecen a todos. Cada uno, cada una de vosotros, de vosotras, puede venir aquí para consultar y verificar las decisiones tomadas en nombre del pueblo, en nombre de la nación. Porque la Revolución Francesa proclama el poder de la nación, la soberanía de la nación, por eso todos los miembros de la nación pueden venir aquí y verificar lo que hacen los que gobiernan, los del pasado y los de hoy. Bueno, entramos en los depósitos de los archivos. Os explico un poco cuál es la diferencia entre este tipo de lugar y quizá otros que les parecen. Y después nos instalaremos en una aula, una sala de clase, para estudiar documentos en español. Bueno, andamos ahora, pasamos la primera puerta. Como visitores privilegiados.
La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion.
On va s'arrêter une minute dans cette salle.
Vous le savez, depuis un an maintenant, la Fabrique de l'Histoire vous propose chaque lundi une balade aux archives nationales, un feuilleton qui démontre la multiplicité des activités de ces archives nationales. Et aujourd'hui, nous sommes dans les ateliers pédagogiques qui sont proposés par le service éducatif de ces archives nationales. Le jeune public peut découvrir le site, les usages et la manière dont sont conservées les archives. Et vous vous posez sûrement la question de savoir pourquoi vous avez entendu de l'espagnol. Eh bien, parce que dans le cadre des ateliers en espagnol, Christophe Barret accueille deux classes du collège Albert Camus de Ris-Orangis.
Alors, exceptionnellement, pour que tout le monde nous comprenne, on va faire la petite présentation en français. Je vais vous expliquer qu'une des premières particularités du lieu, c'est que tout ce qu'on conserve ici, ce sont des documents uniques, dont on ne peut pas retrouver le double ailleurs, comme dans une bibliothèque. Allez, on rentre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de lieu, au cinéma peut-être, ou ailleurs. Harry Potter, très bien, tout à fait, c'est typique. Alors je vais vous expliquer, dans Harry Potter, c'est quoi, il s'appelle comment l'endroit ?
C'est une bibliothèque.
Une bibliothèque. Ici, alors, on est dans un dépôt d'archives, je vais vous expliquer la différence. Donc la première différence, je vous l'ai dit, c'est qu'ici, les documents que l'on a sur les étagères, ce sont des documents uniques. Dans une bibliothèque, tu sais, tu peux avoir un livre qui se retrouve dans une autre bibliothèque. Dans la bibliothèque de votre collège, il peut y avoir un livre qui soit aussi dans une autre bibliothèque. Ici, ce qui est sur les étagères, ce ne sont pas des livres. C'est une autre différence avec une bibliothèque. Ce sont des volumes. Ah, très bien, tu peux lire le titre.
Conseil du roi.
Ouais.
Conseil des finances.
Ouais. Et puis en dessous.
27 février, 9 mars.
L'année
1717.
Très bien. Et puis tout en dessous, peut-être comme dans une bibliothèque, on a une étiquette avec une lettre, des chiffres, qui servent à quoi d'après vous ?
À
classer ?
À les classer, tout à fait. Hein, on a bien sûr un cadre de classement ici aux Archives nationales qui n'est pas celui d'une bibliothèque parce que ces documents sont uniques. Hein. Les documents qui sont dans ces volumes, en fait, ils ont été cousus et ce sont des documents qui sont souvent écrits à la main. Ce volume-là, j'avais demandé l'autorisation de le prendre. On peut l'ouvrir un petit peu. On va voir que la différence avec un livre, quand je l'ouvre, je constate que c'est écrit en italique. Et puis, c'est un ouvrage qui a été imprimé.
Non.
C'était écrit comment ?
À la main.
Très bien. Et à la plume, très bien. Qu'est-ce que je vois ici ? Une grande rayure, ça peut correspondre à quoi ? Ça montre que le document, avant d'avoir été dans le... Exactement, ça a été...
Plié.
Ça a été plié. Ce document, avant d'être dans ce volume, il a eu une vie. Et donc, ce sont ces documents qui ont eu une vie qu'on va étudier. Et cette possibilité de les voir de très près, soit des reproductions, soit quelques originaux, ça va nous permettre d'être dans la peau de l'historien et de faire un vrai travail de recherche et de connaissance sur la vie de ces documents. Nous, les documents qui nous intéressent sont des documents qui sont arrivés d'Espagne, ici, en France, dans les Archives nationales. Alors, quels sont les ministères ou les administrations ? Un ministère qui a beaucoup à faire, qui s'occupe beaucoup des étrangers. Il s'appelle comment ce ministère dans un pays ? Le ministère qui contrôle notre identité, qui nous donne des papiers. Le ministère des Affaires étrangères, il va s'occuper de ce qui se passe en Espagne. Le ministère des Affaires étrangères, il a ses propres archives. Ce n'est pas ici aux Archives nationales qu'on va le trouver. Ouais.
Le ministère de l'Intérieur ?
C'est le ministère de l'Intérieur. Les documents, les papiers qu'on va utiliser aujourd'hui, ce sont des papiers du ministère de l'Intérieur qui a reçu des Espagnols qui sont venus en exil après la fin de la guerre civile ou qui a voulu contrôler un petit peu l'activité politique des Espagnols. Vous allez faire un atelier, en fait, qui se déroule en espagnol, on va essayer de parler, de pratiquer l'espagnol, parce qu'on va voir des documents qui ont été confisqués à des Espagnols qui viennent un petit peu en France faire de la propagande pour la guerre civile. Or, la France, avant 1939, elle n'a pas trop envie de faire la guerre, donc elle se méfie de gens qui veulent faire la guerre. Des documents sont confisqués, et c'est cela qu'on va étudier, nous. Donc, ce sont des documents qui ont été produits en Espagne ou bien produits en France par des gens qui veulent aider les Espagnols. Et ils sont écrits donc en espagnol. Voilà pourquoi, aux Archives de France, on va trouver des documents en espagnol et on va pouvoir se mettre à un exercice de pratique de la langue espagnole. Voilà. On va rejoindre notre salle. Et puis, nous allons déjà étudier deux documents ensemble. Je ne vais pas vous laisser tout seul. Ensuite, avec les professeurs, vous allez avoir à former des petits groupes de deux. Vous allez avoir étudié chacun une image de propagande. Vous êtes quand même au collège, au début de l'apprentissage de l'espagnol. Mais au moins, les images, elles auront cela de facile que vous pourrez les lire. Tout le monde comprend le message d'une image. Le message de ces publicités un petit peu particulières de la guerre civile ne sont pas des publicités qui sont faites pour vendre des outils. Ce sont des affiches qui sont faites pour convaincre les gens de faire la guerre. Donc, en ressortant d'ici, vous saurez un petit peu plus de choses en espagnol, parce que vous aurez pratiqué la langue, et puis vous saurez un petit peu plus de choses en histoire sur ce qu'est une guerre civile et sur ce qu'est l'Europe en 1939. Voilà, on va rejoindre un endroit où donc qui est chauffé. Hein. Ici, on fonctionne selon le principe de l'inertie thermique. C'est le principe de l'abbaye médiévale du Moyen-Âge. Peu importe qu'il fasse chaud ou froid.
Séverine Liattard, Charlotte Roux.
Voilà donc pour ce nouvel épisode de notre balade aux Archives nationales. La suite, la semaine prochaine. Vous pouvez en entre-temps, bien évidemment, réécouter cette émission, mais également télécharger séparément cette balade aux Archives nationales sur le site des podcasts de Radio France. Dès le retour de l'empereur, une première catastrophe vint annoncer toutes les autres. Un tremblement de terre survenu au milieu d'une nuit de décembre ruina en quelques instants un quart d'Antioche. Trajan, contusionné par la chute d'une poutre, continua héroïquement à s'occuper des blessés. Son entourage immédiat compta quelques morts. La populace syrienne chercha aussitôt des responsables au désastre. Renonçant pour une fois à ses principes de tolérance, l'empereur commit la faute de laisser massacrer un groupe de chrétiens. J'ai moi-même assez peu de sympathie pour cette secte, mais le spectacle de vieillards battus de verges et d'enfants suppliciés contribua à l'agitation des esprits et rendit plus odieux encore ce sinistre hiver. L'argent manquait pour réparer immédiatement les effets du séisme, des milliers de gens sans abri campaient la nuit sur les places, Mes tournées d'inspection me révélaient l'existence d'un mécontentement sourd, d'une haine secrète dont les grands dignitaires qui encombraient le palais ne se doutaient même pas. L'empereur poursuivait au milieu des ruines les préparatifs de la prochaine campagne. Une forêt entière fut employée à la construction de ponts mobiles et de pontons pour le passage du Tigre. Il avait reçu avec joie toute une série de titres nouveaux décernés par le Sénat. Il lui tardait d'en finir avec l'Orient pour retourner triompher à Rome. Voici un extrait, bien entendu, des Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar pour ouvrir notre dialogue avec vous depuis Tours. Maurice Sartre, bonjour.
Bonjour.
Un texte évidemment très connu, un texte donc qui tente de se mettre dans la tête du futur empereur Adrien au moment où Trajan a quelques démêlés dans cette région de l'Empire romain. Donc nous sommes au tout début du second siècle après Jésus-Christ, après notre ère, et évidemment l'empereur romain considère que cet endroit de son empire est un endroit peu sûr, peu fiable, difficile à contrôler, et c'est ce que tente de dire dans ses mémoires d'Adrien Marguerite Yourcenar. Est-ce qu'il a raison ?
Oui, je ne crois pas qu'elle ait beaucoup raison, parce qu'elle confond en fait deux choses, ce qui est d'ailleurs très étonnant de sa part, parce qu'elle avait une connaissance approfondie des réalités antiques. C'est-à-dire qu'elle confond la population d'Antioche, qui est une population grecque, hellénisée en tout cas, très fortement, avec ce qu'elle fait appeler par Adrien les Syriens. Alors, ce qui est vrai quand même, et je pense que c'est là l'origine de cette sorte de confusion, mm-hmm. c'est qu'Antioche est une ville extrêmement agitée, mm-hmm. Où les empereurs se sentent peu à l'aise parce qu'il y a là une foule qui est revendicative. Mais d'un autre côté, dans les circonstances, là, il s'agit donc du tremblement de terre de 115, Trajan plutôt, est là, avec Adrien d'ailleurs, parce qu'il fait la guerre aux Parthes, au-delà de l'Euphrate. Donc ça n'a pas de rapport direct avec la Syrie, parce que la Syrie, à ce moment-là, est un pays parfaitement calme, avec les problèmes que peuvent avoir n'importe quel pays à n'importe quel moment. Mais c'est une région pacifiée depuis très très longtemps, mmh. et qui, à l'époque de Trajan, est parfaitement bien intégré dans le système administratif romain avec une grande province de Syrie.
Depuis quand d'ailleurs appelle-t-on cette partie du monde la Syrie, Maurice Sartre ? Ça remonte à quand ?
C'est un terme, le terme de Syrie, on n'en connaît pas l'origine, mais on peut quand même dire quelques petites choses à ce sujet. D'abord, c'est une appellation qui est strictement gréco-romaine. Ce n'est pas du tout une appellation qui existe dans les langues sémitiques, mmh. sauf évidemment très tardivement, à l'imitation, parce que c'est un emprunt fait aux langues européennes. Le mot de Syrie actuel, qui est d'ailleurs le nom officiel quand même de la Syrie que l'on connaît, ne réapparaît que dans la seconde moitié du XIXe siècle, mais c'est un héritage des langues européennes.
Absolument.
Le nom même de la Syrie en arabe, c'est Bilad el-Sham. Sham, c'est le nom arabe de Damas. Et c'est donc le pays de Damas. D'où vient le nom même de Syrie ? On n'en sait rien en réalité, mais il y a deux hypothèses, si vous voulez. Soit c'est une faute des Grecs et à leur suite des Romains qui ont abrégé en quelque sorte le mot Assyrie. Mmh. Alors Assyrie, ça on sait d'où ça vient, c'est le mot du pays du nord de la Mésopotamie, dérivé du nom de la ville de Ashur, qui elle-même porte le nom du dieu, un des grands dieux de cette région, qui est le dieu Ashur. Donc ça, c'est une hypothèse. L'autre hypothèse, c'est que ça soit un toponyme local dont nous avons perdu toute trace et qui s'est développé, comme ça arrive. Comme, vous voyez, je parlais de Bilad el-Sham, le nom de Damas est devenu aussi le nom du pays, mm-hmm. d'une certaine manière. Donc ça peut être aussi une explication. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas du tout un toponyme indigène, en quelque sorte. C'est une appellation gréco-romaine.
Alors, une appellation gréco-romaine qui remonte justement à quelle période, au moment où Alexandre vient faire un petit tour dans cette région du monde et va ensuite descendre en Égypte, remonter pour repartir du côté de l'Indus, c'est cela ?
Oui. Alors, un petit tour, oui, c'est bien, vous avez raison, c'est tout à fait un petit tour de la part d'Alexandre, puisqu'il s'empare de la Syrie après sa victoire à la bataille d'Issos en novembre 333. Il descend, en l'année 332, il descend à travers la Syrie, assiège Tyr qui résiste pour des raisons local, bon, sur lequel on ne va pas insister ici, puis Gaza, il va en Égypte, puis après il retraverse tout le pays pour aller en Mésopotamie. Donc pour lui, c'est vraiment qu'un petit tour, parce qu'il n'y reviendra jamais, enfin sauf mort. Mais il faut quand même se souvenir que la conquête d'Alexandre, la conquête de la Syrie par Alexandre, ouvre une période de 1000 ans de présence culturelle grecque. Jusqu'à la conquête arabe, jusqu'à la conquête islamique, je devrais dire, parce que les Arabes sont en Syrie bien avant, mais jusqu'à la conquête musulmane des années 635 à 638, en gros, pour la conquête, la Syrie est culturellement dominée par des gens qui sont de langue grecque, y compris les Romains. Il ne faut pas l'oublier que les Romains n'ont jamais essayé d'imposer en Syrie le latin. Il y a des colonies romaines où on parle le latin, comme à Beyrouth, mais d'une manière générale, c'est bien le grec. Donc c'est un petit passage à Alexandre, mais une longue période de l'histoire de la Syrie.
Il laisse une trace pour assez longtemps, bien évidemment, parce que évidemment, ses successeurs vont se bagarrer autour de ce territoire. Est-ce qu'on considère tout de suite, après la disparition d'Alexandre, que ce territoire a une unité, Maurice Sartre, ce territoire qui va devenir ensuite la Syrie? Est-ce qu'on sait ses limites? On le distingue par rapport aux territoires voisins? Et comment, d'une certaine façon, Maurice Sartre?
Alors, je crois que on peut même remonter un peu plus loin dans le temps. Disons que la Syrie ne possède pas d'unité réelle, pas d'unité géographique réelle. Pour, si on se place, puisqu'on parle des Grecs et des Romains, pour les Grecs et les Romains, la Syrie, c'est un ensemble beaucoup plus vaste que la République arabe syrienne d'aujourd'hui. C'est un ensemble qui va au nord depuis ce qu'on peut appeler la frontière turque, mais encore qui déborderait largement sur la Turquie, parce que par exemple la Commagène fait partie de la Syrie, et qui va jusqu'à la mer Rouge, c'est-à-dire jusqu'au Negev, jusqu'à la péninsule du Sinaï. Il n'y a qu'un espace qui couvrirait en gros la Syrie, le Liban, la Jordanie, Israël, Palestine, avec des petites annexes supplémentaires.